Je veux que ça le problème que j'élève s'accroche et pèse sur tes neurones.
C'est quoi qui te fait avancer?
Je veux que ça le problème que j'élève s'accroche et pèse sur tes neurones.
C'est quoi qui te fait avancer?
Des porcs armés aux trousses qui d'une balle plongent la course dans le caniveau du non-lieu.
Dans ce pays merdique, y'a un képi pour une casquette.
La douce France casse du bronze et bébé.
Aucune censure que les keufs prennent des jeunes dans le commissariat. Aucune censure que les chômeurs sont bêtas par les CRS. Aucune censure quand ces mêmes CRS foncent des une église des keufs.
Je vois des femmes sans crever.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Tu t'occupes des enfants au lieu de soigner tes monuments.
C'est pour ceux qu'on laisse en plan, c'est ça la douce France.
T'as vu la mer que c'est pas une solution de fermer les yeux.
Il faut que je me venge, alors je fais couler l'encre.
Pour qui je vote? Celui qui défend ma cause ou bien un voyou de la route?
À gauche comme à droite, tous la même requête.
On fait flipper la France ici, les poètes contre leurs écrits.
Et dans un style réfléchi, je développe ma rhétorique.
Pas de justice, pas de paix, pas de paix, pas de paix, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix, pas de paix, pas de paix, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix.
Frontline 106.3, 106.3.
Frontline 106.3, les 2e et 4e vendredi de chaque mois. On va commencer l'émission rapidement avec un morceau d'Anne Peebles. Le morceau c'est Run, Run, Run. C'est un morceau de 74. Donc voilà, Anne Peebles.
Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on est avec Manu et Mohamed de Quartier Libre. Salut.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que Mohamed, tu pourrais présenter vite fait ce que c'est que Quartier Libre ?
Oui, bien sûr. Alors, Quartier Libre, c'est un petit groupe, un petit réseau de gens qui viennent d'horizons diverses. Donc, il y a des chercheurs, journalistes, militants de quartier, militants politiques. Donc, beaucoup de gens différents. Qui sont réunis pour, en fait, à partir de plusieurs postulats. Premier, c'est qu'il y a une carence, enfin, par rapport à l'extrême droite, il y a une carence d'analyse par rapport à ce qui se passe au niveau de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement des cadres, des organisations, il y a une grosse dynamique, une offensive intellectuelle, politique et culturelle de l'extrême droite, et par rapport à ça, il nous semblait qu'il y avait un manque, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse, bon, ça commence un peu, et quand les gens qui s'y intéressent réfléchissent toujours avec des cadres qui nous semblent dépassés, et donc leurs conclusions, leurs réflexions sont un peu limitées là-dessus. Et d'autres par rapport au quartier populaire, c'est-à-dire qu'il y a une véritable... Il y a un énorme fossé entre la gauche dans son ensemble, que ce soit, on va dire, du centre-gauche jusqu'à l'ultra-gauche ou l'extrême-gauche révolutionnaire, et les quartiers populaires, et un abandon des classes populaires parce que manque de stratégie, manque de réflexion et même d'analyse et aussi peu d'ancrage. Donc par rapport à ces deux questions, que ce soit l'analyse de l'extrême droite, l'offensive intellectuelle de la droite et des droites radicales, et l'abandon des classes populaires et le manque d'organisation structure par rapport à ces questions, on voulait réfléchir là-dessus. Donc on a organisé plusieurs conférences, formations, sur ces différentes thématiques, sur les nouveaux visages de l'extrême droite, sur la théorie du complot, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, dernièrement, on avait organisé une réunion sur Casapunt. Donc on avait invité un militant antifasciste romain pour nous parler de Casapunt. Donc c'est un mouvement néofasciste italien qui est en train de devenir, qui est la référence de pas mal de bon nombre de mouvements d'extrême droite en Europe et particulièrement en France, parce qu'ils ont choisi une stratégie un peu différente de la plupart des autres organisations, une stratégie de prise de pouvoir culturel. Et donc de nouvelles pratiques qui ont donné des effets, c'est-à-dire que ça marche, qu'en fait, qui révèlent le fait que l'hégémonie culturelle, donc les références sont du côté de la droite et de la droite radicale. Ce qui est, pour nous, la gauche, dans son ensemble, quelle qu'elle soit dans ses variétés, n'a pas pris en compte. On est des vaincus, et en face de nous, ils sont à l'offensive. Mmh. Donc, voilà.
D'accord. Donc, aujourd'hui, on va parler, comme tu l'as dit, Mohamed, de la théorie du complot, des conspirationnistes et autres du genre. Alors, pour présenter un peu ça, vous aviez fait une brochure qui est disponible sur le net, notamment sur www.conscient.com. Donc, la théorie du complot... qui s'appelle les théories du complot, conspirationnistes et droite extrême. Manu, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu déjà la base de peut-être la définition du mot, en effet, conspirationniste, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique aussi politiquement ?
Alors, le mot est apparu assez récemment puisqu'il vient de rentrer cette année dans le Petit Larousse, donc qui donne une définition. Alors il faut le distinguer, les théories du complot, des complots en tant que tels. Hein. Les complots sont des projets concertés secrètement contre la vie ou la sûreté de quelqu'un ou contre une institution. Les complots sont avérés dans l'histoire. Les théories du complot, c'est un peu différent. Ce sont, alors il y a plusieurs définitions, puisque plusieurs chercheurs ont travaillé depuis plus d'une dizaine d'années sur le sujet, depuis les années 70 aux États-Unis, un peu plus récemment en France. Les théories du complot sont donc, selon une définition assez simple qui pose quand même des problèmes, sont des complots fantasmés, hein, soit qui n'existent pas, soit qui déforment la présentation de complots réels, généralement les élargissant au-delà du raisonnable ou les incluant dans une conspiration qui est plus vaste et qui généralement transcende l'espace et le temps. Alors ça pose des problèmes puisque c'est quoi un complot fantasmé, c'est quoi un complot réel, puisque les complots sont par définition des projets concertés secrètement, donc c'est dur de savoir si ça existe ou ça n'existe pas. Alors après ça, il y a eu plusieurs essais de définitions diverses et variées. Je vous propose une définition. Donc, on pourrait voir les théories du complot comme des théories qui interprètent des pans entiers de l'histoire, et plus singulièrement de l'histoire contemporaine, voire la totalité de l'histoire humaine, comme résultant d'interventions de forces obscures, entre guillemets, agissant de façon souterraine pour parvenir à des fins inavouables. La conspiration revêt en général une forme hiérarchisée, pyramidale, séparant les manipulés inconscients, les complices actifs et les manipulateurs eux-mêmes. Elle s'emploie à dominer le monde, entre guillemets, c'est-à-dire la vie politique, l'activité économique et le tissu social. Elle dispose pour ce faire de relais privilégiés. Elle emploie tous les moyens, y compris les plus méprisables, les plus odieux, pour subsister au pouvoir établi, visible, l'autorité d'un pouvoir supérieur, occulte et dénué de toute légitimité. Donc c'est à D'accord. peu près une définition qu'on peut donner des théories du complot.
Qui revient à l'image de l'élite active et qui agit en secret dans des manoirs bizarres pour définir la politique mondiale, quoi.
Ça renvoie à cette image d'une élite active actuellement. Ça a été aussi l'image de forces de contestation qui ont pu être assimilées comme des éléments conspirationnistes. On peut penser au cercle de pensée du 18e siècle autour des Lumières, ou bien le communisme qui a été aussi considéré comme un complot mondial.
D'accord. On va faire une petite pause musicale et on revient pour approfondir cette question.
Ouais, on va écouter tout de suite Lubna, c'est une rappeuse de Dijon qui fait partie du collectif Matières Premières. Donc voilà, c'est un morceau extrait du dernier album Les Armes d'une Guerre, et c'est dispo sur leur site matièrespremières.org.
C'est rien d'admirable, je m'adapte aux secousses pour analyser ce qui est que mon ressort. D'après mon fer et ce qui ressort, les cartes sont sur la table. Quand tu veux tu poses la tienne, traîne pas la mienne, c'est un accord à l'amiable. Le son derrière, je suis d'accord avec lui, c'est pour ça que je le check et viens le voir quand je peux dans la semaine. Et là j'ai envie de sourire, une fois là-bas y'a qu'à fermer la serrure. On m'a dit que je parlais comme si je sortais de la cellule, comme si j'étais. Tu veux quoi que je te sorte le cyanure, ce qui vient d'extérieur, j'appelle à ta matière s'il y en a une. Pour les rares qu'il y a derrière, j'aurai sans trop mes affaires. Le sens de mes vers sort de mes viscères quand le désert s'insère. Pour ma mère, celle-là sincère. C'est vrai, y'a des écrits post-mortem qui te réveillent. Pour le reste, je te lève, toi et ton aval. Dégurgiter ce contre quoi tu travailles et les plaques que t'avales. J'aligne des bribes de phrases sur l'instrumental et ça donne ça. Mon point qui des starting blocks, c'est pas pour émouvoir. Des résidus de gamberge que je pose ici et là. Ouais, j'aligne des bribes de phrases sur l'instrumental et ça donne ça. Mon point qui des starting blocks, c'est pas pour émouvoir. Des résidus de gamberge que je pose ici et là. Je les laisse y croire et les trouble de temps en temps par quelques-unes de mes interventions. Le niveau est là, ok, je me retrouve encore en bas. Après un peu, puis je lâche pas, je suis en première STG. Les deux dernières lettres me gênent, mais j'ai pas le choix, donc je leur en donne pour pouvoir passer outre la donne. Me demande pas pourquoi, je parle souvent de cette putain d'école. Je sais pas, c'est la seule issue, ouais, c'est ça, analyser. Batailler contre ce qu'il y a en face. Remarquer, avoir, savoir qui est l'ennemi dans la glace. C'est souvent la merde, on le sait, et à pouvoir s'en étouffer. Jusque mon dernier souffle, pour cette merde, je me battrai. En finir intoxiqué par l'odeur qu'elle dégage. Si ça ne dit rien, c'est un souvenir dans le même sens. Et remballe-moi tes vieilles histoires de cage. Arrête d'appuyer sur le même bouton, regarde. J'ai juste enlevé le cage, bouffon. J'aligne des bribes de phrases sur l'instrumental. Et ça donne ça. Mon point c'est des starting blocks, c'est pas pour émouvoir. Les résidus de gamberge que je pose ici et là. Ouais, j'aligne des bribes de phrases sur l'instrumental. Et ça donne ça. Et ça donne ça. Et ça donne ça.
Vous êtes toujours sur Frontline 106.3. Donc à l'instant, on a écouté Lubna, donc rappeuse du collectif Matières Premières, et c'est extrait de l'album Les Armes d'une Guerre. C'est sorti il y a quelques semaines. Là.
On est de retour avec Mohamed et Manu. Alors Manu, tu nous as présenté vite fait ce que c'est que le conspirationnisme en général. On va peut-être revenir un peu sur son historique et sur son lien direct avec l'extrême droite. Assez explicite à mon avis.
Quand on fait l'historique du complot, on s'aperçoit assez rapidement du lien des théories conspirationnistes avec l'extrême droite. Donc en gros, de façon très rapide, on a coutume de faire remonter les théories du complot avec la modernité, donc autour du 16e siècle et la fracture dans le monde chrétien avec le protestantisme. Donc il y a des proto-théories du complot antérieures, les théories du complot se poursuivent dans une forme encore archaïque, on va dire du 16e à la Révolution française, donc 1789. On trouve en particulier l'histoire du complot jésuite, donc les jésuites qui infiltreraient les cours des souverains pour les diriger. Mais on est encore dans des formes, si elles se rapprochent de ce qu'on connaît à notre époque, sont encore très, très frustes, très peu élaborées. C'est avec la Révolution française, donc de 1789, que les théories du complot font leur apparition. Elles sont utilisées par le pouvoir révolutionnaire pour lutter donc contre les immigrés, c'est-à-dire les nobles partis à l'étranger et dirigeant la contre-révolution, mais aussi par cette même contre-révolution qui va vouloir expliquer la Révolution française par le biais du complot maçonnique. Donc les francs-maçons seraient à l'origine de la Révolution française. C'est une théorie qui est développée par plusieurs auteurs catholiques, généralement des religieux, dont le plus célèbre est l'abbé Augustin de Baruel. Ces théories donc, vont se poursuivre durant tout le 19e siècle et s'enrichir progressivement. Donc les francs-maçons vont être rejoints assez rapidement, enfin assez rapidement, ça met un peu de temps à se mettre en place, mais par l'idée d'un complot mondial juif, par également tout ce qui sont les magiciens divers et variés, donc le mouvement occultiste du 19e siècle, qui eux aussi vont être accusés d'être en lien avec un complot mondial. Ces théories vont être donc avoir un gros succès au 19e siècle. Beaucoup de livres sont publiés, c'est impossible de dire le nombre tellement il y en a, et vont avoir un nouveau retour en force, même si elles n'avaient pas vraiment disparu, avec la révolution bolchevique de 1917. Cette révolution, également très soudaine, appelle on demande des explications, les bolcheviques les proto-bolcheviques, c'est-à-dire les mouvements socialistes et communistes du 19e siècle, étaient déjà accusés par des catholiques contre-révolutionnaires qui sont en train de se muter en catholiques nationalistes à la fin du 19e siècle, en instigateur du complot, ou même en outil d'un complot plus vaste, et qui serait toujours dirigé par les mêmes instigateurs qui se sont mis en place tout au 19e siècle, donc la franc-maçonnerie, les juifs, etc., les mages, pour donc renverser le pouvoir et prendre le pouvoir, généralement en mettant en parallèle donc le capitalisme américain, on va dire, et le communisme, qui ne serait que les deux faces d'une même entité, voilà, dirigée par des forces secrètes.
Il y a beaucoup de questions de francs-maçons en général, avec cette imagerie, avec la pyramide et compagnie, liée à une espèce de truc très ancien. Ça, c'est pour ce qu'on voit en général dans les sites, blogs, c'est clairement un truc de geek. Enfin, moi, chaque fois que j'ai vu ça,
c'est un truc de geek, c'est sûr. Voilà. Je pense que si on fait autre chose, d'ailleurs, que regarde Internet, on laisse rapidement tomber ces théories.
Quel est l'impact, du coup, de ce genre de théories aujourd'hui sur les jeunes, les moins jeunes, qui sont peut-être pas apolitisés, on va dire, qui ont une espèce de soif de conscience, mais qui se retrouvent tout d'un coup face à ces théories, comme si on leur avait ouvert la fenêtre, la lumière au bout du tunnel. C'est quoi le lien aujourd'hui avec l'extrême droite ou les passerelles faciles entre ces théories-là et les pratiques ou les stratégies de l'extrême droite?
Alors, c'est des théories qui ont un succès relatif, assez difficile à chiffrer, puisque il y a actuellement, en tout cas en France, et même je pense dans le monde, différentes organisations qui font de la propagande conspirationniste, mais généralement elles ont peu d'adhérents, ou des adhérents très isolés, hein. Généralement des petits groupes d'une ou deux personnes sur Internet suffisent pour donner un réseau. Donc il peut y avoir aussi une illusion d'une masse de personnes, et Internet favorise cette illusion. Maintenant, dans les gens qui croient ou qui adhèrent d'une certaine façon à ces théories, sans doute il y a beaucoup plus de gens, mais c'est très difficile de donner un chiffre précis. On peut avoir des indices quand on discute avec des gens, quand on rencontre des gens qui, d'un coup, sur un événement donné, commencent à donner l'explication d'un complot, ce qui en soi n'est pas conspirationniste, mais commencent à dérouler tout un fil où on se retrouve avec cet événement particulier devient un point dans un vaste réseau d'événements et d'histoires, donc ça touche des gens. Difficile de donner un chiffre précis ou un pourcentage.
On le voit même là, par exemple, vu qu'on écoute du rap dans cette émission, sur comment des artistes français, bon, américains, c'est particulier parce que ça fait les théories du complot sont beaucoup plus anciennes aux États-Unis, beaucoup plus acceptées, on va dire. Et en France, il y a pas mal de...
Elles sont plus acceptées, pas plus anciennes, Mohamed.
Oui, oui.
L'Europe a quand même la primeur, je crois.
Et en France, t'as des artistes, voilà, de rap ou autres, qui reprennent au travers de différents lyrics les thématiques conspirationnistes, en citant par exemple les Illuminati. Donc Manu pourra peut-être nous faire un topo, parce que c'est un des thèmes, un des groupes qui est le plus souvent utilisé dans des références conspirationnistes, sans pour autant jamais définir ce que c'est comme les francs-maçons, alors que c'est une des marottes des conspirationnistes. Sinon, par rapport au complot et par rapport à l'extrême droite, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, voilà, théorie qui explose pour la Révolution française, et qu'on peut pas expliquer comment un ordre établi basé sur un droit divin chute. Même chose au niveau du régime par rapport à la Révolution bolchevique en Russie. C'est comme si un événement, si tout d'un coup était le peuple se réveillait tout d'un coup et mettait à bas les institutions, ça ne peut être qu'expliqué parce qu'il y a manipulation de groupes occultes. Et là où l'extrême droite se rejoint, c'est qu'elle nie, comme les conspirationnistes, tout ce qui est lutte sociale, rapports sociaux. C'est-à-dire que quand on étudie ces révolutions ou d'autres événements qu'on définit comme des événements liés à des mouvements conspirationnistes, on voit qu'il y a tout un cheminement. La Révolution française ne s'est pas faite en 1789. Il y a eu des prémices, il y a eu des développements, un changement au niveau intellectuel avec le mouvement des Lumières et autres. Et donc, des luttes sociales, que ce soit avec lutte contre la féodalité et la noblesse, en Russie par rapport au régime tsariste et à l'exploitation des travailleurs ou autres. Et qu'on voit qu'en fait, on nie tout ce qui est processus sociaux, transformation sociale, transformation technique, au profit d'explications les plus simplistes, parce qu'on refuse d'analyser un événement majeur comme étant ayant sur la longue durée, et remet en cause l'ordre établi, que ce soit la Révolution française qui remet en cause le droit divin, la féodalité, l'ancien régime, parce qu'il apparaît une nouvelle société sur l'émergence d'une classe bourgeoise, de nouvelles idées qui circulent et autres. Même chose en Russie où c'est l'épicentre, mais il y a eu déjà des tentatives révolutionnaires pendant la première en Europe de l'Ouest ou en Europe de l'Est et même en Europe de l'Ouest. Donc tout ce cheminement, tout ce bouillonnement est nié au profit d'explications simplistes parce qu'on ne veut rien voir. Par rapport à Internet, c'est la même chose. À se focaliser sur avoir des micros, des extraits de vidéos qui veulent expliquer lambda, la guerre d'Irak, qui que soit par un complot et un tel, on nie tous les processus ou les transformations géopolitiques qui ont lieu, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, l'écroulement de l'Union soviétique, une libéralisation des économies qui provoque une déstructuration des sociétés, l'abandon, une défaite intellectuelle, culturelle de la gauche et de la gauche révolutionnaire. Donc on est dans un état de chandruine intellectuelle et autres. Et donc l'explication la plus simpliste expliquer ces transformations, c'est par l'idée qu'il y ait des groupes occultes qui existent depuis des temps immémoriaux, qui contrôlent ça, parce que c'est plus simple et plus acceptable, par exemple quand on est militant ou autre, ou même quand on veut avoir des explications, de dire que c'est une force tellement puissante qui est là depuis l'origine et qu'on peut rien y faire, alors que ceux qui quittent Internet ou ces théories du complot, qui se confrontent au réel à la militance, savent qu'on peut gagner des choses, qu'on peut lutter, qu'on peut perdre, mais que c'est dans la lutte, dans le réel, et non pas dans l'ésotérisme ou dans la fuite dans l'irréel.
Alors oui, c'est simple, c'est en même temps des théories qui sont extrêmement complexes, mais c'est vrai qu'elles donnent en tout cas à l'histoire une unité qu'elle n'a pas. Donc elles postulent que tous les événements sont liés entre eux, que tout est imbriqué, on sait que l'histoire est chaotique, que les buts des individus ne se réalisent que très rarement, ou très rarement dans les buts qu'ils prévoyaient. Par exemple, on peut donner un exemple, quand Bonaparte devient empereur, c'est un peu un hasard quand même, puisque c'est son frère à l'origine qui devait prendre le pouvoir. Donc les choses ne se déroulent jamais de façon mécanique, et c'est vrai que c'est rassurant de voir les choses se dérouler de façon mécanique, de pouvoir se dire « Ah, mais si ça arrive, c'est lié à ça, et ce ça est lié à un autre ça antérieur », et donc éviter un sentiment de chaos et de perte dans l'histoire.
Perte de référence. Parce que voilà, il y avait du temps de la guerre froide, il y avait deux blocs qui avaient chacun des objectifs différents, une lutte mortelle ou autre, et intellectuelle idéologique, et sur lesquels on pouvait se baser. Avec la fin d'un bloc, la chute de l'Union soviétique, c'est plus maintenant le dogme néolibéral capitaliste qui domine, mais celui-là n'est toujours pas accepté à l'ensemble de la planète. Il y a toujours une contestation par rapport à ça, sauf que la référence sur laquelle on se pesait, c'est-à-dire ce qu'on appelait le camp de l'Est ou les mouvements de libération nationale dans le tiers-monde qui ont montré leurs limites et même les horreurs qu'elles ont commis, fait qu'on a plus, quand on est contestataire, on n'a plus sur quoi se référer de valable et d'une échelle internationale. Donc on se retrouve avec une panique morale, une panique intellectuelle, et c'est là où les théories conspirationnistes qui ont toujours été là, voilà, comme l'a dit Manu depuis au moins la Révolution française, peuvent réapparaître parce qu'il y a un vide intellectuel, un vide idéologique, et ça c'est plus et
dans lesquels une porte ouverte à l'extrême droite. Cependant, on parle là de la négation d'une extrême droite bourgeoise, d'une certaine élite bourgeoise qui nie la révolte sociale. Quid de l'extrême droite populiste qui, elle, aussi a tendance à aller vers, notamment, on en a parlé, le complot communiste et compagnie, en mettant, en effet, ces révoltes-là sur le plan d'un complot et non pas de la révolte sociale. Mais du coup, qui a un autre agissement et du coup une autre implication et qui nous ramène peut-être à aujourd'hui l'état de l'extrême droite en France, notamment quand on parle des gens comme Dieudonné et compagnie. Quand on parle des Illuminati, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors moi, je vous propose de revenir là-dessus après une petite pause musicale.
Voilà. On va écouter un morceau tout récent, c'est « Y a-t-il une vie avant la mort ?» C'est du groupe West Section, c'est un groupe d'Angers qui sortira son album d'ici 15 jours. Donc on écoute ça tout de suite.
Je suis ni croyant ni voyant, mais je crois en demain pour les miens, tutoyant l'espoir afin qu'ils côtoient nos destins. Trouver la force de remonter, même au fond du trou, c'est pouvoir compter sur soi-même pour encaisser les coups. Parce que la vie est un combat, que chacun lutte à chaque seconde. Parce que la mort traîne ses appâts dans chacune des parcelles de ce monde, talonné par ses démons qui sans aucune pitié sévissent. Quand le diable prend du galon, c'est dans nos faiblesses qu'il s'immisce. Et c'est comme ça qu'on fait de nous-mêmes notre pire ennemi, laissant nos priorités moisir à l'écart au fond du puits. Je te donne ma vision de la vie, sans te raconter la mienne, pour moi c'est jamais fini, même à la 90e. À défaut de rester vivant, garde ton honneur sain et sauf, plutôt que de brasser du vent. Comme cet enfoiré garde des sceaux, mieux vaut parler peu et bien que souvent et mal. Comme mieux vaut agir pour les siens, les biens du sang n'ont pas d'égal. Radical, quand ma conscience me le réclame, que ma patience décline, c'est pas mon innocence que je clame, mais le fait de rester droit, même à l'étroit, la tête haute. Quel que soit le poids des droites que tu reçois dans les côtes, tu peux me couper les pattes, j'avancerai avec les bras. Et oui, j'ai une grande gueule, donc remballe ton sparadrap, car je suis très loin de la fermer, comme je suis pas prêt d'abdiquer. Des rêves j'en ai, je ferai tout pour les réaliser. Œil pour œil, dent pour dent, ma plume t'allume à bout portant. Sache que pour te désosser, elle attend pas le dernier carton. Je me défends avec ardeur, pendant que d'autres portent le glock. Moi je combats avec le cœur et avec ce que j'ai dans le froc. Je plante le décor, dans ma tête il pleut des cordes. J'ai plein de bonnes intentions, mais le spleen m'absorbe. Tout me lasse, je veux plus vivre en permanence sous la menace d'un coup de masse. Sa race, je m'évadais sans avoir à parler de charasme. Tout est chum et rush dans ce monde atroce, cet empire de paperasse. Les corbeaux croissent pendant que les bourreaux nettoient leurs crosses. Nous on s'accroche comme on peut, sans mordre à la patte, pour l'instant rescapé. On verra demain ce qu'il adviendra, j'ai pas de quoi m'esclaffer. En constatant la restriction de nos droits, qu'est-ce que tu crois? À l'envers, comme à l'endroit, c'est nous les trois dans ce bras de fer. Le but est de rester brave et fier, comme si on avait le choix. Mes yeux se plissent, mais mes bras jamais ne se baissent, grâce au soutien de mes complices quand ils sont présents dans la pièce. Et ouais, bien sûr, je me sens pas seul sur ce navire, et je big up mon équipage soudé pour pas que le bateau chavire. Je parle à cœur ouvert, mon visage reste fermé, cerné, qu'est-ce que je peux y faire? Je mange des cailloux tellement je suis payé au lance-pierre. Je taffe tard, je dors peu, plus de rythme et plus d'horaire. Vis ma vie à l'intérieur d'une bétonnière, secoué en permanence dans un univers bruyant sans lumière. Tous durcis, durcis, on veut simplement esquiver les soucis, mais on est tous en sursis, discorde, bras de fer, guerre et désaccord. Rancœur au rancard, galère qui t'envoie dans le décor. Raison ou à tort, une question me torture encore. Y a-t-il une vie avant la mort? Discorde, bras de fer, guerre et désaccord. Rancœur au rancard, galère qui t'envoie dans le décor. Raison ou à tort, une question me torture encore. Y a-t-il une vie avant la mort? Discorde, bras de fer, guerre et désaccord. Rancœur au rancard, galère qui t'envoie dans le décor. Raison ou à tort, une question me torture encore. Y a-t-il une vie avant la mort? Discorde, bras de fer, guerre et désaccord. Rancœur au rancard, galère qui t'envoie dans le décor. A raison ou à tort, une question me torture encore. Y a-t-il une vie avant la mort? 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 Guerre et désaccord, désaccord. Dans ce bras de fer, le but est de rester brave et fier. Rancœur au rancard, comme si on avait le choix. A raison ou à tort, une question me torture encore. Une vie avant la mort.
C'était West Section avec le morceau Y a-t-il une vie avant la mort? C'est en téléchargement gratuit sur leur maxi agression verbale, donc en téléchargement gratuit sur bboyconscient.com comme d'hab quoi.
Yes. Alors on revient en studio encore avec Mohamed et Manu de Quartier Libre. On parlait un instant des Illuminati. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un mouvement qui a réellement existé à la fin du XVIIIe siècle. Donc, pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut un peu resituer le contexte. Donc, c'est l'Europe des Lumières, donc il y a des salons, on pense la politique autrement, on conteste le pouvoir absolu, mais certains commencent à contester même la monarchie en tant que telle, rêvent de démocratie et contestent aussi la religion, du moins dans la religion instituée avec l'Église catholique. Voilà. En Allemagne, il y a un petit groupe, alors très 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 petit et qui n'est pas grand-chose, dirigé par un certain Adam Weishaupt, qui est un professeur d'université, qui a un discours extrêmement radical. Au moins le discours, dans les faits, de toute façon, ils n'ont jamais pu passer à l'acte, et on peut penser que c'était surtout une posture plus qu'une réalité d'une volonté de quelque chose, mais en tout cas, ils étaient pour tuer les souverains et les prêtres et instaurer la démocratie et on va dire plutôt une forme plutôt athée dans l'esprit. Ce groupe fait pas grand chose, fait des petites réunions, voilà, et à un moment décide, pour avoir une plus grande audience, d'intégrer la franc-maçonnerie.
Ce groupe s'appelle les Illuminés de Bavière.
Voilà, ce groupe s'appelle les Illuminés de Bavière. Alors les Illuminés de Bavière donc décident d'intégrer la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est quelque chose d'extrêmement composite au XVIIIe siècle, avec des gens qui sont plutôt laïcs, voire athées, des gens qui n'en ont pas grand-chose à faire et qui sont plutôt dans des réseaux de sociabilité mondains, et des gens qui sont, enfin bon, ça représente à peu près la société du temps. Voilà, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Ils décident donc de rejoindre ces réseaux, de s'infiltrer dedans. Donc c'est ce qu'ils font. Voilà. Et finalement, au bout d'un moment, donc lors d'une réunion maçonnique qui a lieu en 1882, se font remarquer et sont assez rapidement éliminés par les autorités comme un groupe subversif. Adam Weishaupt réussit à se réfugier auprès du duc de Saxe et finit ses jours à la cour du duc de Saxe, voilà, sans que le groupe, donc on est juste avant la Révolution française, n'ait réussi à faire quoi que ce soit et à toucher plusieurs centaines de personnes, sans doute dans des milieux plutôt maçonniques, mais enfin est resté. Voilà. Alors la chose, bon, ça c'est ce qui s'est passé sur ce groupe. Après ça, il y a eu tout un fantasme qui s'est mis en place. En particulier, donc, plusieurs auteurs, mais en particulier l'abbé Augustin de Baruel, dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait un ouvrage pendant la Révolution française, qui n'a pas été en France et pour cause, qui accuse les Illuminés de Bavière d'être à l'origine de la Révolution française. Alors, l'histoire est complexe. Il a accès aux documents du groupe, qui ont été confisqués par les autorités en Allemagne, les étudie et commet en gros une erreur, c'est qu'il assimile à la fois, alors il y a deux choses à l'époque qui sont les Illuminés, c'est à la fois un type de franc-maçonnerie qui n'est pas vraiment la franc-maçonnerie mais qui est plutôt mystique, qu'on trouve en France avec des gens comme Villermoz par exemple, etc. Donc ils sont plutôt, eux pour le coup, dans des mouvements ésotériques et engagés dans ce qui donnera plus tard l'occultisme au XIXe siècle, et en Allemagne, des groupes, les Illuminés de Bavière justement, qui sont des groupes athées et politiques virulents. Lui va un peu tout mélanger, trouvant le terme d'illuminé, et va se dire « Ah mais s'il y a les Illuminés français, sont la même chose que les Illuminés allemands », et construire l'idée que ces groupes d'illuminés sont à l'origine de la Révolution française. Après Baruel, l'idée va se perpétuer jusqu'à nos jours. Alors,
On en parle aujourd'hui.
Alors, de quelque chose qui sont les Illuminati. C'est pas très clair ce que c'est. A priori, les thèses conspirationnistes sont passées dans les années juste avant la Première Guerre mondiale et juste après la Première Guerre mondiale dans les pays anglo-saxons, par le biais principalement de femmes. On peut penser par exemple à une grande dame du conspirationnisme anglo-saxon, Nesta Webster. Donc c'est formé à une école plutôt française, ou en tout cas européenne, et elles aussi vont récupérer Baruel, faire passer la chose aux États-Unis, et aux États-Unis, donc, c'est plutôt dans les années 70 que se forge l'idée des Illuminati. Alors, la définition, il n'y a pas de définition de ce que sont les Illuminati, puisque c'est quelque chose d'extrêmement flou, qui a eu, qui est une sorte de label, de marque, mais la réalité de ces Illuminati en tant que groupe reste quand même extrêmement floue, surtout que les seuls vrais Illuminés connus, en tout cas dans leur matrice, qui sont les de Bavière, sont détruits avant la Révolution française.
Il y a un élément intéressant qu'a dit Manu, c'est que voilà, c'est, la matrice est européenne, importée aux États-Unis, transformée par l'environnement américain et réimportée en Europe ces dernières années. Et là, ce qu'on voit, c'est surtout une importation, même d'un point de vue politique, des référents culturels et politiques américains. C'est-à-dire que pas mal de rappeurs, même, qui réutilisent les thèses conspirationnistes, enfin, ou les thématiques, ou juste les termes, c'est parce qu'ils écoutent du rap américain qui réutilise ces termes. Des livres, des ouvrages qui étaient édités aux États-Unis sur les conspirationnistes sont traduits et réimportés en France. Et ce qu'on assiste surtout, c'est la domination culturelle et même des références américaines. Et les théories conspirationnistes, que ce soit avec la mort de JFK, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, avec X-Files, avec les ovnis, enfin avec tout ça, il y a un environnement culturel et politique américain propice aux théories du complot. Il y a une méfiance généralisée envers le gouvernement fédéral américain par des cette méfiance, elle est partagée par une partie non conséquente de la population américaine, parce que suite à la naissance des États-Unis qui s'est construit contre l'autorité britannique coloniale et aussi dans plus une fédération et pas un autoritarisme jacobin comme en France. Donc en fait, c'est surtout une assimilation des thèses américaines par des Européens ou des Français. Et sur ces thématiques, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a les sociétés secrètes étudiantes, enfin secrètes, parce que tout le monde sait qu'elles existent et tout, mais c'est surtout des lieux de sociabilité, de rencontres, de mise en place de réseaux, d'une élite, comme ce qu'on pourrait appeler en France les associations d'anciens élèves, des grandes écoles ou autres. Et toute cette importation en Europe, c'est assez cocasse, en particulier par une extrême droite française qui est pour une partie anti-américaine, c'est qu'elle a complètement assimilé les États-Unis, soit Dieudonné, Alain Soral qui vomissent l'Amérique, l'axe américano-sioniste comme ils disent, simplement ils réfléchissent comme comme l'extrême droite américaine.
Sachant que pour Dieudonné et Soral, ils vont plutôt chercher quand même leur référence dans la bonne vieille littérature française que les Américains. Mais c'est vrai qu'on trouve des contaminations américaines, par exemple je pense à Kémi Séba, donc le leader de la tribu K, qui n'existe plus actuellement, enfin bon bref, mais il y a quelques années, donc était plutôt dans une matrice assez européenne sur ses théories conspirationnistes, et d'un coup on a vu apparaître sur son site des textes sur les Skulls and Bones. Alors les Skulls and Bones, qui sont une fraternité étudiante américaine, en Europe personne n'en parlait jusqu'à il y a très très peu. Donc aux États-Unis la littérature est beaucoup plus conséquente et on voit très clairement une contamination de cette littérature américaine.
D'accord, donc clairement les Illuminati, on en parle aujourd'hui, certains rappeurs, tu le disais tout à l'heure Mohamed, qui m'avait filé filon Missa, Rockin' Squat.
Ouais, voilà. Bah, d'ailleurs, pendant votre conférence, vous décortiquiez un peu un des derniers clips de Rockin' Squat.
Oui, j'invite les auditeurs à regarder sur YouTube ou Dailymotion le clip Le pouvoir secret de Rockin' Squat. Et là, vous verrez un condensé, ce qui est plutôt bien fait, un condensé des différentes théories conspirationnistes, mêlant en fait communisme et capitalisme, c'est la même chose. Sachant que pour nos auditeurs, Rockin' Squat est un ancien, dans sa période précédente, c'était on va dire un gauchiste primaire qui attaquait violemment les États-Unis et le capitalisme. Et là, ça serait intéressant de voir comment il s'est retourné. En fait, quand il cite ses auteurs, c'est du genre Alex Jones ou Hunt, c'est des théoriciens conspirationnistes américains, et en fait, lui a baigné, que ce soit au niveau du rap américain, et là il baigne concrètement dans le bain conspirationniste américain. Il l'importe, il le fait à sa sauce, ça s'est répercuté auprès des éditeurs vu qu'il n'y a plus de vide idéologique, parce que les mêmes fans d'Assassin en écoutant sur la lutte des classes, les luttes de libération nationale et autres, maintenant se mettent à chercher sur le cartel des banques, le groupe Bilderberg et autres. Et là c'est intéressant de voir comment par un biais culturel on peut contaminé idéologiquement, politiquement et au niveau intellectuel des gens, parce qu'il y a un vide idéologique. Après, il y a un autre événement que je voudrais rajouter par rapport aux théories conspirationnistes, parce que les gens nous disent « Oui, mais regarde, le nouvel ordre mondial, il y a le FMI, la Banque mondiale, donc bien, ça nous, il y a la mondialisation, c'est tellement bien fait que ça ne peut être que l'œuvre d'un groupe occulte. » Et c'est ça qui est la grande force des théories conspirationnistes, pour les plus, on va dire, les moins extravagants dans le sort qui ne sort pas d'OVNI ou de lézard, parce qu'il y a aussi ce biais des théories conspirationnistes. non mais qui pèse, hein, mais ça fait rire, mais ça pèse, c'est qu'en fait elles prennent des faits concrets. C'est clair que voilà, il existe des fraternités étudiantes américaines, parce que The Unbones, d'autres, il existe le groupe Bilderberg, il existe d'autres, des associations, il existe des ententes entre les banques qu'on découvre après, des ententes oligopoles et tout ça, même enfin on les découvre après, donc elles sont pas si secrètes que ça. Elles sont pas si puissantes.
Entre des gouvernants élus et
des complots comme l'opération de Pinochet pour prendre le pouvoir face à Allende. On sait qu'il est soutenu par la CIA. Même chose en Iran. Mais toutes ces choses, on le sait, soit pendant le moment ou après. C'est des opérations militaires classiques d'intoxication, de guerre secrète, de tout temps qui ont toujours existé et autres. Mais en prenant voilà des faits réels existent, on veut en trouver un groupe occulte. Et ça, c'est comme pour la guerre, la Révolution française qui a mis par terre entre guillemets l'ordre religieux et divin. Comme la révolution bolchevique qui a mis par terre l'ordre tsariste et religieux, et même a été un danger pour toute l'Europe, parce que ça a été une panique morale au niveau européen pour toutes les bourgeoisies, pensant que les communistes, voilà, allaient tous les égorger et autres, c'est qu'il y a une remise en cause de l'ordre établi. Et que ce soit le FMI, la Banque mondiale ou d'autres, on pourrait parler de l'Organisation internationale des travailleurs, depuis le XXe siècle, c'est aussi une interconnexion des économies, donc la création de nouvelles institutions, elles sont pas occultes, c'est la formation, l'évolution du capitalisme ou d'autres qui pousse à une meilleure connaissance. La preuve, même les contestateurs d'extrême gauche et tout sont beaucoup plus liés au niveau international qu'il y a quelques décennies. Il y a des rencontres internationales, pourquoi on ne présuppose pas que c'est des groupes occultes? Bientôt, on dira que le Forum social mondial qui s'organise un peu partout dans le tiers-monde sont des groupes occultes visant à renverser. C'est la conspiration communiste. Mais c'est en partant de faits réels, d'institutions qui existent, en faire une. Parce que, aussi, c'est parce qu'on ne met pas le nez dans l'histoire. Sinon, si on étudie un peu tous ces événements, on verrait qu'il y a un processus qui est long, chaotique, qui n'a pas donné ce qu'on pensait à l'origine. Voilà, en rappelant que l'histoire est chaotique, elle ne donne pas parce que je pense A, ça va donner B, des fois ça donne Z ou ailleurs, ou des fois ça donne rien. On redécouvre des choses, et comme pour la révolution bolchevique, si c'était une véritable conspiration communiste, la base, elle aurait dû avoir lieu en Allemagne. Tout le monde, Marx, Lénine l'avait théorisé, en Allemagne, c'était le pays plus industrialisé. Elle a eu lieu en Russie, dans un pays dit arriéré, parce que campagnard, ruraux, et après ça devait être une révolution mondiale. Non, ça restait cantonné à l'Union soviétique, donc même.
Et en plus, les communistes ont vraiment conspiré depuis la Russie pour l'exporter dans l'Europe. Ça n'a pas marché. La preuve, la France n'a jamais été un pays communiste. Donc,
je veux bien que l'ordre mondial soit contrôlé par les États-Unis et des groupes américains. Ils sont en Afghanistan. On va revenir juste au Vietnam. Ça a été historiquement une défaite militaire et même politique américaine dans lesquelles ils ont du mal à se remettre. C'est pour laquelle qui peut expliquer leur 20 ans guerre en Irak pour essayer de rappeler ça. Donc, les gens qui sont censés dominer le monde depuis des siècles sont incapables de mener des guerres contre des petits sauvages et tout, qui portent des noms comme Mohamed ou autre, machin, mais qui contrôlent par des puces RFID et tout ça, sauf qu'il y a des contestataires, des remises en cause, des choses qu'on reprend, donc simplement accepter, voir le monde tel qu'il est, une complexité, et c'est pas parce qu'on lutte qu'on obtient des choses, et c'est pas parce que eux en face, que ce soit les tenants des différents régimes des entreprises et qui aboutiront à la crise financière. Quand, juste avant le début de la crise financière, il fallait juste regarder les médias, tout le monde poussait à. Oui, il faisait même à la paix, au PS, je me rappelle Delannoy qui disait n'ayons pas peur de dire que nous sommes social-libéraux. Avec la crise financière, le libéralisme a été, d'un point de vue même médiatique et intellectuel, remis en cause. Même certains libéraux qui disaient oui, il faudrait peut-être revoir parce que ça devient complètement bordélique. Donc même les tenants se prennent une défaite dans leur gueule intellectuelle. Donc le monde. L'histoire n'est pas gérable, n'est pas contrôlable comme ceux qui la pensent. Il faut juste sortir son nez d'internet et regarder un peu autour de soi.
D'accord, on va faire une petite pause encore et on va revenir brièvement pour essayer de voir quelles pourraient être éventuellement les passerelles entre les théories du complot et certains intégrismes religieux, entre autres.
Ouais, on va écouter tout de suite, c'est un morceau inédit, enfin ça sort bientôt, c'est M1, rappeur américain de Dead Prez, avec Bono, donc producteur du groupe italien Salti Frontali, c'est featuring General Levy, donc il y a le clip qui est dispo et ça sort je pense d'ici quelques mois, donc voilà.
Fell on his deathbed, the streets ran red with blood, sweat, and tears. It was too many years of liberation. nation. Colonization enslaved the whole nation. Cecil stole that call in Rhodesia. Too many white folks got an amnesia. How convenient, history is not an agreement. I guess it's based on how you see it. Nah, we're wrong, you got it right. We gotta fight, it's related to Africa. Africa's our land, the future's in our hands. Now here's a list of our demands. Reparations for what you stole. The people, the land, the diamonds, the gold. Stop the bombing us, neo-coons, Uncle Tom and us. Selling us your empty promises. Your economists propagandizing what time it is. Fuck that digital shit. Back up off our nuts a little bit. And let's take it back to the futuristic. I testify as a material witness. These motherfuckers is too sadistic. If you got some melanin, you can get with this. X that, if you hear this, that's the business.
Africa, the rightful land of our forefather. Was stolen away by thief and robber. The thing feed will and take away the silver. They take away the woman, but not the culture. You take a little thing, black man, a fight for. We want back the land of our forefather. Christopher Columbus was a rascal liar. To be quite precise, he was a friggin' robber.
So we'll find out. The real revolutionary.
Kwame Nkrumah, Sekou Toure, Thomas Sankara, the leaders of tomorrow, the future Garvey, the future Lumumba, the future Biko, the future heroes. Let's celebrate a free Zimbabwe, we doing it our way. A national holiday, no more imperialism, not today. Fuck the IMF, fuck the World Bank, United States of Africa, not Africom. You think I'm dumb? I know where I'm from, the continent. I ain't claiming no block, you got me bent. I meant what I said and said what I meant. Obama ain't my president, that's just white power in the black face. This about liberation, not race.
The signs are all around us, the writings in their way. You know the spot to look for, the message will be clear. The street between the lines of pretty sense from nonsense. No be fooled by the lies, politics, false pretense. Make us leave, keep us blinded. Lies block the truth, to stop collaborating. They divide us into groups. Racialism, prejudice, sexism, to name a few. Unity is strength, so they divide us and rule. Murder!
So illegal, them kill the innocent over the island in diesel. Them wicked and deceitful, and I go and let them regal. We burn them is inevitable. We tell you, say we want them free. Get to youth free. Get to youth free from their mental slavery. Get to your youth, we want to be free. Free, free. Fight for your rights and your liberty.
Toujours sur Frontline 106.3, donc les émissions à télécharger sur bboyconscient.com. Et on vient d'écouter M1 donc de Dead Prez. C'est produit par Bono, le producteur italien, en featuring avec General Levy. Le morceau c'est Will Revolutionaries, c'est en téléchargement gratuit.
Alors on vient avec Mohamed et Manu, et peut-être sur la question un peu plus précise, enfin deux petites questions un peu plus précises sur. Premièrement, l'influence et la passerelle assez facilement faite en général entre un certain intégrisme religieux et les théories du complot d'une part. Et deuxième petite question, peut-être sur ce qu'on peut fréquenter un peu plus au quotidien pour certains, les problématiques liées à des groupes tels que Dieudonné Soral en relation justement à ces théories du complot.
Alors sur la question de la religion, bah, les théories du complot sont, semble-t-il, assez liées à l'élément religieux. En gros, depuis traditionnellement, je ne sais pas si c'est grand-chose traditionnellement, mais enfin dans les religions monothéistes, l'idée est que l'histoire est dirigée par la main divine, donc la providence avec un grand P. Cette providence, donc, doit emmener les hommes de la création de l'homme jusqu'à la fin des temps. Ça peut varier après son interprétation, mais enfin bon, Dieu gère l'histoire. À partir donc de la modernité, donc 16e siècle, en gros, s'il faut dater les choses précisément, ce qui est peut-être pas forcément le cas, mais en tout cas de cette rupture, l'idée de la gestion divine de l'histoire tend à s'affaiblir en même temps que la montée de la laïcité, de l'émancipation des peuples, de la tutelle religieuse, etc. les êtres humains se retrouvent alors complètement esselés, l'histoire a plus de sens en tant que telle, et c'est à ce moment-là que finalement les théories du complot d'ailleurs se créent et font leur entrée. Comment expliquer l'histoire si Dieu gère plus l'histoire? Donc à partir de ce moment-là, on va chercher, c'est pas Dieu qui gère l'histoire, donc l'histoire va pas se finir selon les plans divins forcément, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Enfin, l'être humain a un peu horreur du vide, et c'est extrêmement angoissant de se dire qu'on est dans un monde lié au hasard, dont la fin, on ne sait pas quand elle sera ni comment elle sera. Et donc finalement, il est plus pratique d'aller chercher des groupes occultes qui vont remplacer finalement la providence divine. Mais la providence divine doit théoriquement aboutir à un mieux, ou en tout cas à un état de béatitude finale, alors que ces théories du complot tendent plutôt à noircir l'histoire et son apogée. Mais en effet, c'est des choses qui sont liées. Alors on retrouve des chemins divers, donc de personnes extrêmement religieuses qui progressivement dans des processus de sécularisation en viennent à devenir conspirationnistes, mais l'inverse peut également se produire, de personnes totalement entre guillemets athées hein, ou sceptiques, ne prenant pas en compte en tout cas Dieu et à plus forte raison la Providence, vont en creusant dans ces théories trouver finalement un fil conducteur à l'histoire et rentrer dans un processus de ré-religiosisation
du politique.
C'est un barbarisme affreux, mais du politique.
Donc un espèce de mysticisme qui est assez poussé par ces théories du complot, parce que on parle de symbolisme, enfin il y a beaucoup de symboles, de trucs occultes et compagnie, et on en revient, enfin moi j'ai pu avoir ces théories du complot assez présentes, notamment dans le mouvement Rastafari, dans tout le milieu du reggae, on a beaucoup de gens qui sont assez proches de ces théories, qui soutiennent en tout cas. On va peut-être faire un petit topo sur la bande à Dieudonné et compagnie, et on va devoir vous quitter dans pas très longtemps, chers auditeurs et auditrices. Je sais pas, en 2-3 mots, le lien éventuel à
ouais,
faire.
C'est bien d'éclaircir un petit peu par rapport à tout ça, parce que Dieudo, c'est un peu compliqué le rapport qu'il a,
c'est
même que les gens.
Très compliqué. On les retrouve un peu partout. On croise la bande à Dieudo en manif quand on veut pas la voir. Ils sont là, ils grattent un peu partout.
Voilà, pas mal de rappeurs qui soutiennent encore
beaucoup de
Dieudo,
de petits
qui
jeunes
le citent
qui savent
et
pas
tout
trop,
comme un martyr. Tu vois. Donc, si jamais vous pouvez expliquer, ce serait pas mal.
Alors, Dieudonné, l'histoire commence avec le sketch qu'il avait fait chez Fogiel, déguisé en juif orthodoxe, ultra-orthodoxe, qui faisait un salut nazi en disant « Aïe Israël ». Je ne sais pas si à l'origine, quand il fait ce sketch, il y a quoi que ce soit, à part ce sketch en tant que tel, mais une réaction médiatique très forte qui va, je pense, profondément le choquer, et surtout, certaines personnes vont se rapprocher de lui à ce moment-là.
D'autres vont s'en détacher, d'autres vont se rapprocher. Les seuls qui vont le soutenir, le défendre, au fur et à mesure, en fait, ça, c'est déjà arrivé il n'y a pas très longtemps, de militants justement d'extrême gauche qui ont, entre guillemets, dérapé ou ont mal comprendre. Et en fait, tu as un détachement du cercle autour d'eux au profit de nouvelles personnes qui vont s'approcher, clairement d'extrême droite, antisémites et tout, qui vont leur dire non, tu as raison, on va te soutenir. Et au fur et à mesure, tu as un changement idéologique, le même qui vomissait Le Pen, se retrouve à se faire baptiser sa fille par Le Pen. Donc tu vois, ce mouvement, c'est pas fait d'un bloc, ça ne se fait jamais d'un bloc, c'est par étapes, tranquillement, au fur et à mesure, si on fait une recherche. Enfin, il y en a qui sont penchés là-dessus médiatiquement, les différentes personnes qui
sont. Ces étapes-là, par quel biais, en fait, on passe d'une chose à l'autre?
Bah en fait, t'as des gens qui vont le soutenir, donc là t'avais un peu tout le monde, t'as pas mal de gens. Par exemple, justement, la difficulté, c'est qu'en fait, par rapport aux États-Unis, en France, t'as un phénomène nouveau qui arrive avec Kémy Séba et après avec Dieudonné, c'est le suprémacisme noir. Donc ça, aux États-Unis, c'est courant, il existe des courants religieux ou pas, ou politiques, de noirs qui affirment que c'est eux la race supérieure avec le blanc. Donc selon la Nation Islam ou autre, c'est des démons, c'est des sous-hommes et autres.
C'est une islam qui a ses racines dans les premiers mouvements de Malcolm X.
Malcolm X a rejoint la Nation Islam, elle existait précédemment. Et en fait même, c'est un peu compliqué parce que le phénomène sectaire aux États-Unis, non pas péjoratif mais de branches qui se divisent d'un courant religieux, c'est avec la liberté religieuse fait qu'il y a des centaines et des centaines de sectes différents. Par exemple, on peut parler des 5% Nation qui ont une vision conspirationniste, c'est-à-dire il y a une masse de gens, t'en as, l'essentiel c'est des dormeurs, t'as les éveillés c'est eux, et t'as les serpents qui dirigent le monde. Donc là on voit c'est présent. Mais par rapport aux suprémacistes noirs de Kémy Séba et autres, c'est qu'en France, grosso modo, parce qu'on a une vision morale du racisme, on pense qu'un noir ne peut être une victime et ne peut pas être raciste. Ou s'il est raciste, ça s'explique avec des explications sociales. Ce qui fait que pendant longtemps, des gens vont soutenir Dieudonné alors qu'il va clairement sortir des théories antisémites claires et nettes que d'autres, si ça avait été un blanc qui l'aurait sorti, on l'aurait condamné, mais parce que c'est un noir, c'est accepté ou c'est justifié. Et là, c'est la difficulté par rapport, on peut revenir avec la gauche, à voir que ils ont tout basé leur antiracisme sur un antisémitisme moral. C'est pas bien d'être raciste et tout. Alors que voilà, c'est une question de classe ou une question économique et une question politique. Et donc Dieudonné, lentement, les cercles des gens autour de lui vont se modifier. Ça va être de plus en plus des gens clairement d'extrême droite ou proches, des mecs qui, comme Soral, qui a pendant longtemps a avancé masqué en disant non, moi j'ai été communiste et tout, alors qu'en fait, clairement, c'est un.
Il a jamais eu sa carte en plus.
Justement, il y a des.
Il y a des ondes d'ombre de sa biographie.
Il y a des ondes d'ombre et personnages en. Pour moi, clairement, c'est un nationaliste révolutionnaire. C'est un mot qui vire vers le catholicisme intégral dans pas longtemps, mais voilà. Et donc, parce qu'en même temps, t'as le coup médiatique, c'est-à-dire que médiatiquement, il a une grande gueule et tout ça, il a avancé masqué, il parlait de la Palestine et tout avec des traits radicaux, ça a plu parce que dans le.
Oui, ces gens-là, on les a retrouvés d'ailleurs devant le CICP à essayer
d'infiltrer et tout, parce qu'il n'y a pas de position.
Dans la protection du CICP pour Génération Palestine. En face, on avait la manif de la LDJ et autres qui a appelé au boycott du bateau pour Gaza. Ces gens-là sont arrivés dans la manif. On a eu affaire notamment un des gardes du corps ou ex-gardes du corps de Dieudonné qui est arrivé avec des mômes en mode on est là pour.
Oui, mais
on les retrouve un peu partout. Donc,
parce qu'en fait, les positions, c'est aussi la carence idéologique et d'analyse, c'est qu'on est dans un. C'est pas clair et net, les fronts ne sont pas clairs et nets et tranchés. Alors qu'en Palestine, c'est beaucoup plus clair, c'est-à-dire, par exemple, Soral, à un moment, avec la liste antisioniste, enfin, le parti antisioniste qu'il avait fondé avec Dieudonné, donc un parti fondé sur l'antisionisme pour pas dire parti antisémite, avait déclaré qu'il était soutenu par le Hamas. Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas à Gaza, avait dit non, moi je les connais pas, on les soutient pas, et la lutte palestinienne, c'est une lutte politique et pas une lutte religieuse ou ethnique. Donc, si tu veux, même les principaux concernés ont un discours beaucoup plus clair que ce qu'il soutient. Et le problème, c'est qu'il y a même des mecs de Égalité et Réconciliation, donc l'organisation qu'a créé Soral, ils sont allés voir des mecs du No Pas Aran ou d'autres groupes, et qu'il y a eu une ambiguïté. Il y a 30 ans, cette ambiguïté ne pouvait exister. Quand t'étais pro-palestinien, c'était du côté progressiste, et un mec d'extrême droite, plus ou moins, tu le déboîtais. Là, il y a un tel vide qu'on accepte n'importe quoi. Pour revenir sur les théories conspirationnistes et l'extrême droite, il y a eu des manifs contre le dîner du siècle. Donc un dîner qui a lieu à Place Concorde avec des chefs d'entreprise, des journalistes et tout ça. Donc la collusion, et certains ont commencé à délirer là-dessus. Et t'as eu un cortège du MAS, le mouvement d'action sociale, qui est clairement un mouvement d'extrême droite français, à la limite néo-nazi, on va dire.
Néo-nazi, je crois.
Et ils étaient là, t'as des gens qui ont voulu les dégager. On disait, il n'y a pas de faf ici. T'as des gens, des manifestants, pas politisés, qui ont dit, ouais, mais c'est pas grave, ils sont d'accord avec nous. C'est avec la carence intellectuelle, idéologique, politique à l'heure actuelle qui fait que tu peux te retrouver à des alliances avec n'importe qui. Tu peux dire avec Dieudonné Soral, ouais, mais c'est des antisémites, c'est pas grave, ils soutiennent la Palestine, c'est ce qui compte. Non, il y a des limites. Simplement, vu qu'on n'est pas clair dans nos positions, pas dur dans nos positions, pas avoir un discours net et tranché, qu'on se retrouve avec tout et n'importe qui. Quand le discours net et tranché, tu sais, ils auraient, à la manif, quand il y a eu les bombardements sur Gaza, t'avais Égalité et Réconciliation qui devait intégrer la manifestation dans le cortège du Centre Zahra, qui est une organisation chiite du nord de France. Ils se sont fait déboîter par le service d'ordre. Mais même, t'avais des gens qui disaient, je comprends pas, Dieudonné, il est noir, c'est un comédien et tout. Tu vois, juste en plus, c'est pas parce qu'il est noir qu'il est progressiste. Enfin, tu vois, vu qu'on a tellement moralisé les gens, dire oui.
Non, mais c'est basé sur un espèce d'antiracisme.
Le moral. Et il faut le politiser.
Très judéo-chrétien et très bourgeois.
Et qui a été repris par le MRAP, par toutes les organisations, même les organisations d'extrême gauche. SOS Racisme, ça a été un des plus grands vecteurs de ça. Et la plupart des organes d'extrême gauche ou de gauche l'ont soutenu. Parce que c'était un moyen de s'ancrer dans les quartiers populaires. Après, tout est lié. C'est parce qu'il y a un décrochage de la gauche dans les quartiers qu'on essaie de trouver des canaux qui pourront essayer de nous faire essayer de, d'avoir un impact dessus. C'est parce que Kémy Séba à un moment s'est dit ouais, je vais représenter les quartiers, ça n'a pas marché parce que ils sont pas neuneux, non, on n'est pas neuneux dans les quartiers ou autres et les populations qui y sont, mais simplement au sein des militants il y a un tel flottement que parce qu'il est noir on n'arrive pas à toucher les noirs, donc Dieu donné, oui, c'est comme d'autres organisations comme les Indigènes de la République ou d'autres ont mis du temps avant de condamner Dieu donné. Pendant un moment t'avais un flottement, donc quand t'es pas politisé, que t'es pas au fait de tous ces machins de corpuscules qui s'allient, tu dis bon bah il se retrouve dans des organes, je le retrouve avec des militants pour palestiniens, ça doit être quelqu'un
de bien, on les retrouve dans pas mal de choses
parce que les premiers
amalgames entre
parce que ceux à qui on attend un positionnement clair n'ont pas de positionnement clair.
On va devoir s'arrêter là. On va peut-être sûrement vous réinviter pour parler un peu plus des droites extrêmes parce que c'est un sujet qui est un peu vaste qu'on peut pas traiter en une seule émission. En tout cas, on a essayé d'avoir un éclaircissement sur ce que c'était à peu près les théories du complot et les conspirationnistes. On vous remercie, Manu et Mohamed, d'être venus.
Merci de nous avoir invités.
Ouais. Conférence de Quartier Libre reprenne à la rentrée.
Oui, ah, très bien. En septembre, en octobre.
Octobre, je pense.
En octobre.
On aura sur les nouveaux visages de l'extrême droite, on la réorganise. On fera ensuite sur la contre-culture, parce que ça nous semble un biais, c'est-à-dire que la droite, en particulier droite radicale, ont pris la préemption sur la gauche alternative et autres, c'est-à-dire que c'est eux qui sont à la pointe de la contestation. En tout cas, ils essaient d'être à la pointe de la contestation.
Et ils reprennent l'esthétique de la contre-culture.
Et tout ça, en disant soyez rebelles, soyez d'extrême droite.
On retrouve ça dans pas mal de monde. On en reparle. De toute façon, vous êtes abonné à notre agenda Quartier Libre.
Il y aura toutes les infos.
Sans problème sur Frontline et sur bboyconscient.com.
Exactement.
Bon week-end à tous et merci encore d'être venus.
Allez, bon week-end.
Frontline 106.3.